de textes liturgiques pour cette fête de la Toussaint. L'épître est tirée du livre de l'Apocalypse. En ces jours-là, je vis, moi, Jean, un autre ange qui montait du côté du soleil levant, tenant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël étaient marqués du sceau. De la tribu de Juda, 12 000 étaient marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Zakar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 étaient marqués du sceau. Après cela, je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône en face de l'agneau, vêtus de robes blanches, ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte et disaient « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre animaux. Et ils se prosternèrent devant le trône sur leur visage et adorèrent Dieu en disant « Amen. » Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus, voyant les foules, gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il se mit à les instruire en disant, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux vous serez lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et vous asseoir. Donc demain sera la messe, le jour des morts, donc ce n'est pas une fête d'obligation. Vraiment pour ceux qui le peuvent, c'est d'assister à une des trois messes pour prier pour les défunts de vos familles. Donc j'irai trois messes à la suite, 10h, 10h45 plus ou moins, après 11h30 et puis la troisième messe. Donc il y a trois messes successives, c'est-à-dire des rares jours où les prêtres ont le droit de dire trois messes. Donc le 2 novembre, le jour de Noël. Je rappelle que à partir du 14 novembre, donc là, j'aurai déménagé, donc la messe aura lieu à Ginal, juste à côté. J'ai mis aussi au fond de la chapelle le papier de retraite pour le calendrier 2022, qui sera en principe sur le site internet également, je pense, mardi soir. J'ai aussi changé certaines choses, puisque on va déménager ensuite. Il y a d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre. J'ai trois amis qui vont venir de l'île de la Réunion, qui vont venir déménager dans le coin. Vous êtes tous les bienvenus. Et du coup, je vais changer un peu certaines choses. Je ne veux pas abandonner du tout les autres chapelles que je desserre. Mais je voudrais bien que les choses soient claires. Pour moi, la chapelle de Padiès passe en priorité parce que c'est là où j'habite. Donc je vais faire un petit changement pour la chapelle d'Andorre où je vais une fois par mois. Je continuerai bien sûr d'aller une fois par mois à Andorre, je serai sûr ceux qui m'écoutent sur internet, mais je n'assurerai plus les premiers vendredis, premiers samedis du mois là-bas. Je les assurerai ici pour que les gens puissent les avoir ici. Et je continuerai d'aller à Andorre, bien sûr, le jour par mois pour assurer les messes là-bas, mais à une autre date. Je vais essayer aussi, donc, de une fois qu'on sera là-bas, de... Je voudrais de plus en plus faire une paroisse, même si elle est très humble. Et donc, une première chose que je voudrais faire, c'est de faire une chorale. Je vous félicite d'avoir fait un effort. Je suis sûr que les gens au ciel ont été très très jaloux d'avoir une qualité musicale aujourd'hui. J'ai été très impressionné. C'est bien, continuez vos efforts. J'essaie de faire une chorale parce qu'en principe, D'après les lois d'église, le dimanche par exemple, on va chanter, on doit commencer par le vidiaquam pendant le temps pascal, l'aspergès, qu'on chante avant la messe avec bénédiction des fidèles et l'eau bénite. Je ne le fais pas ici parce qu'on n'a pas encore la chorale, mais j'espère bien arriver à fonder une petite chorale pour que justement apprendre tous ces chants, revenir un peu aux traditions de l'église. C'est très important. Également, je ferai tout mon possible pour essayer de plus en plus de faire remettre l'esprit de paroisse. C'est ça qui a fait le Moyen-Âge chrétien. Le Moyen-Âge chrétien a été créé autour des paroisses. Autour des paroisses, c'est capital. Donc, en tout, je voudrais essayer de faire un repas en commun, peut-être sans doute le troisième dimanche de chaque mois après la messe. Enfin, on verra tout ça, chaque chose en son temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, Saint Thomas d'Aquin dit que la fin est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. La fin de notre vie, c'est le ciel. C'est ce ciel qu'on fait aujourd'hui. Donc la fin de notre vie, le but de notre vie, c'est d'aller au ciel. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Même si elle sera dernière dans l'exécution, cette fin, c'est-à-dire que ça arrivera qu'à la fin. Au moment de notre entrée au ciel. Donc il faut qu'on garde dans notre esprit, dans notre âme, cette idée. Pratiquement, il doit devenir une idée fixe. Je suis créé pour aller au ciel. Je suis un être d'éternité et c'est au ciel que le bon Dieu me veut parce qu'il m'a créé pour ça. J'ai été créé pour louer, honorer et servir Dieu. Et ces trois fêtes successives, le Christ roi hier, la Toussaint aujourd'hui, le jour des morts demain, nous rappellent justement que nous appartenons à cette Église. Et que l'Église, ce n'est pas seulement l'Église ici-bas. L'église ici-bas, je vous ai déjà un petit peu expliqué ça, l'église ici-bas, on l'appelle l'église militante. Pourquoi? Parce que c'est une église de combat. Miles en latin, c'est le combattant, c'est le soldat. Donc, le soldat, celui qui se bat. Le soldat qui va faire la sieste toute la journée, c'est pas un soldat. On peut rien en faire. Donc, ici-bas, on est là pour se battre. Donc, n'espérez pas avoir la paix ici-bas, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de ce grand combat à la tête duquel notre Seigneur Jésus-Christ arrive avec son étendard pour se battre. Il y a un combat terrible entre l'armée, j'expliquais ça un petit peu hier, l'armée du démon, l'armée de la révolution, contre l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'armée de la révélation. Et donc il y a ce combat gigantesque. Et ce passage dans l'église militante n'était qu'un passage bref. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui marche, c'est pas quelqu'un qui s'arrête. On marche. Donc ce passage dans l'église militante est très bref. Surtout par rapport à l'éternité. Dizaines d'années, centaines d'années, siècles au maximum et encore. Immédiatement après le passage dans la première partie de l'église, donc c'est-à-dire l'église militante, il y aura un passage, si nous sommes sauvés. Malheureusement, si nous sommes condamnés après notre passage ici-bas sur la terre, on quitte l'église. C'est la chute en enfer. Mais si nous sommes sauvés, nous passerons à ce moment-là dans une deuxième partie de l'Église, qu'on appelle l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est l'Église du purgatoire. L'Église du purgatoire est extrêmement importante. C'est là, en quelque sorte, l'antichambre du paradis. Et cette Église souffrante est absolument fondamentale pour nous, parce que sans passer par l'Église souffrante, souvent on ne peut pas aller au ciel. Il n'y a que les martyrs ou les grands saints qui peuvent aller directement au ciel, et encore. Et cette deuxième partie qu'on appelle l'église souffrante, l'église du purgatoire, nous amène à la troisième partie, l'église que nous fêtons aujourd'hui, à savoir l'église triomphante, l'église du ciel. Et l'existence de cette triple partie, de ces trois parties dans l'église, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. On lit au credo. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Et j'ai remarqué quand on pose cette question à la plupart de nos fidèles, la communion des saints c'est quoi? Ils savent pas. Ben la communion des saints c'est ce que je viens de vous expliquer. La communion des saints c'est cet échange de prières qui existe entre les trois parties de l'Église. L'Église d'ici-bas, l'Église militante, l'Église du purgatoire et l'Église souffrante et l'Église triomphante au ciel. Il y a un échange de prières. Cet échange de prières dans la vertu de charité, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Donc ici-bas, dans l'église souffrante, dans l'église militante, pardon, on peut bien sûr prier pour les âmes du purgatoire. Donc on peut prier pour les membres de l'église souffrante. On n'a pas besoin de prier pour ceux qui sont au paradis dans l'église triomphante, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous prier. Ceux qui sont dans l'église triomphante, au ciel, peuvent prier pour nous, et peuvent prier pour les âmes du purgatoire. Il est discuté dans l'église pour savoir si les membres de l'église souffrante, c'est-à-dire les âmes du purgatoire, peuvent prier pour nous. Mais saint Thomas d'Aquin, la plupart des pères pensent que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on est au purgatoire, on est dans un état passif, un état de purification. Donc les âmes au purgatoire, vraisemblablement, ne peuvent pas prier pour nous, parce qu'elles sont en quelque sorte dans un état de purification absolue. Et tant qu'elles ne sont pas purifiées, elles ne peuvent rien faire pour nous. C'est pas une fois qu'elles seront au ciel, qu'elles seront passées de l'église souffrante à l'église triomphante, elles ne vont pas nous oublier, et à ce moment-là, elles prieront pour leurs bienfaiteurs, ceux qui ont prié pour eux ici-bas. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Et donc, cette communion des saints est absolument fondamentale. Pour nous rappeler que nous faisons partie d'un grand tout. Et l'église militante n'est que passagère, l'église souffrante n'est que passagère, le but, c'est l'église triomphante au ciel. Nous sommes des êtres d'éternité. Et le bon Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est d'avoir auprès de lui toutes ses créatures. Toutes ces créatures rationnelles. Tous les anges qui sont déjà, et tous ceux qui vont mourir en état de grâce. Maintenant, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours enseigné le petit nombre relatif des élus, attention. Petit nombre relatif des élus, attention, c'est pas contrairement à ce que certaines personnes pensent, il y a certaines sectes protestantes qui interprètent ce texte de l'Apocalypse que je viens de vous lire au sens strict, qui disent qu'il n'y aura que 140 000 personnes au ciel, 144 000 personnes au ciel, bien sûr que non, c'est pas du tout ça. Ce chiffre de 12 000 est un chiffre symbolique, donc on ne sait pas quel est le nombre de personnes au ciel. Mais par contre, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Large est la voie qui mène à la vie éternelle, et étroite, et je veux dire, large est la voie qui mène à l'éternité malheureuse, en enfer, et étroite et resserrée est la voie qui mène au ciel. Donc vous pouvez tourner la voie dans tous les sens, il y a plus de personnes en enfer, hélas, que de personnes au ciel, au moins aujourd'hui. Les pères de l'Église, beaucoup, docteurs également, enseignent, et je pense que c'est vrai, bien que ce ne soit pas de foi, que dans les temps de chrétienté, parce qu'il y avait l'union de l'Église et de l'État, par exemple au Moyen-Âge, dans les temps de chrétienté, la plupart des gens se sauvaient, ça je vais bien le croire. Imaginez ce que ça devait être de vivre en France sous Saint-Louis. Bon, aujourd'hui on vit sous Macron, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, mais imaginez ce que ça devait être d'être sous Saint-Louis, avoir des saints papes, avoir des saints évêques, malgré l'humanité qui est là, qui fait qu'il y avait aussi des pécheurs, bien sûr, il était beaucoup plus facile de sauver son âme, c'est sûr, au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Mais Dieu en tient compte. Et donc, il nous donne les grâces dont nous avons besoin. Et les pères expliquent que cette trilogie, donc ces trois parties de l'Église à laquelle nous appartenons, l'Église catholique, l'unique Église véritable, l'Église triomphante, l'Église militante, l'Église souffrante, représente le chemin que nous devons parcourir ici-bas pour aller au ciel. Vous savez, quand on monte au ciel, on ne monte pas au ciel d'un seul coup. Sauf certains cas très particuliers. Les bébés, par exemple, qui meurent juste après le baptême. Eux, ils passent directement l'église militante à l'église triomphante. C'est ça qu'on les appelle les voleurs de paradis. C'est une exception. Bon, les martyrs, qui meurent par amour pour, qui sont tués par amour pour le bon Dieu, évitent totalement l'église souffrante et vont directement au ciel. C'est encore une exception. Mais nous, on est obligé d'y aller par étapes. On a d'abord une partie de purification. La partie de purification, en fait, correspond à l'église militante. On est sur la terre pour se purifier. On est sur la terre, non pas pour jouir de la vie, on est sur la terre pour se préparer à aller au ciel. Et toutes les souffrances que nous faisons ici, que nous acceptons ici-bas, d'abord les souffrances qui nous sont imposées par les circonstances, parce que le bon Dieu s'occupe de nous, et les souffrances volontaires que nous provoquons nous-mêmes par l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit de pénitence, tout ça va nous permettre de réduire considérablement le temps que nous allons passer dans l'église souffrante au purgatoire. Il est bien plus rentable pour nous de faire pénitence ici-bas, volontairement, que de faire pénitence au purgatoire par obligation. Et donc, ça correspond à la vie purgative. Purgare en latin, ça veut dire purifiant, purifier. On était obligé de se purifier parce que seuls les gens qui sont parfaitement purs peuvent rentrer au ciel. La deuxième étape dans la vie spirituelle, nous enseigne l'Église, c'est la vie illuminative. recevoir les lumières du Saint-Esprit qui permettent une purification, cette fois-ci, beaucoup plus profonde encore, et ça correspond à l'Église souffrante au purgatoire. Les gens qui sont au purgatoire souffrent avec une joie extraordinaire parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés. Et je dirais, les âmes du purgatoire n'ont qu'un seul désir, c'est, je dirais, que leur souffrance se fasse le plus vite possible, le plus intensément possible, parce que plus intenses sont les souffrances, plus court sera le temps de séparation qui va les séparer de l'entrée au ciel. Et la troisième étape, c'est la vie unitive, c'est un peu la vie mystique. Troisième étape de la vie spirituelle qui va correspondre à l'Église triomphante, l'Église du ciel. Vous voyez, ceci nous aide à comprendre toute la beauté du catéchisme, la beauté de la foi catholique. Et donc, les parents, les futurs parents, doivent faire très attention justement à considérer ces choses-là. Le but du mariage, c'est quoi? Peupler le ciel d'élus. C'est pour ça qu'il y a le mariage. Le mariage, c'est pas pour jouir, le mariage, c'est pour peupler le ciel d'élus. Dans la mesure où le bon Dieu veut que vous ayez des enfants. Si mon Dieu ne permet pas que vous ayez des enfants pour une raison qui est la sienne, comment vous allez au ciel? Et que vous ayez de l'influence sur les gens sur lesquels vous pouvez avoir une certaine fonction, les gens dont vous avez la charge, directement, indirectement, pour les aider eux aussi à monter au ciel. Ceci est absolument, absolument fondamental. Donc, tous les gens sur la terre qui ont charge d'âme ont cette obligation d'aider les âmes dont ils ont la charge, ou dont ils auront la charge, à aller au ciel. Comment se passe? Comment se met en pratique cette obligation? Par les trois devoirs de ceux qui ont charge d'âme. Pas oublier ça. Magistère, ministère, gouvernement. Magistère, l'enseignement. Ministère, la sanctification. Gouvernement, la direction des âmes pour les amener au ciel. Et les pères aussi font une comparaison entre justement les trois étapes de la vie spirituelle, les trois obligations de magistère, ministère, gouvernement et les trois parties de l'Église, justement, pour nous rappeler que toutes ces choses sont absolument liées pour nous aider à aller au ciel. Alors, il y a un dernier point qui me semble extrêmement, extrêmement important, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Vous voulez comprendre pourquoi il y a ce combat, lisez l'Évangile d'aujourd'hui, les béatitudes. Si c'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, qu'est-ce que nous dit notre Seigneur? Si on compare les béatitudes de notre Seigneur Jésus-Christ et les béatitudes du monde, c'est là où on voit qu'on est dans deux sphères complètement différentes, dans deux pays différents, dans deux planètes complètement différentes. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ? Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et qui les pauvres en esprit? Ceux qui pratiquent l'esprit de pauvreté, ceux qui luttent contre l'esprit de mondanité, qui ne veulent pas s'attacher aux choses qui passent, et qui veulent s'attacher aux choses qui demeurent. Qu'est-ce que vous dit le monde au contraire? Le monde vous dit, bienheureux ceux qui s'attachent aux choses qui passent. Bienheureux ceux qui ne considèrent que les choses d'ici-bas et qui ne s'occupent pas de ce qui va se passer après la mort. Et le monde va plus loin, le monde va vous dire, malheur aux pauvres en esprit, parce que justement, ils sont déconnectés de la réalité des choses d'aujourd'hui. Vous voyez, ça montre le combat terrible. Deuxième béatitude, bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Qu'est-ce que dit le monde? Bienheureux les violents, bienheureux ceux qui arrachent les biens, qui accumulent tous les biens terrestres ici-bas, et qui ne se préoccupe pas de ce qui se passera après la mort. Malheur aux doux, parce que justement, les doux n'ont plus rien à faire dans le monde qu'on nous présente aujourd'hui ici-bas. On voit encore une fois cette opposition, troisième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le monde, qu'est-ce qu'il vous dit? Bienheureux ceux qui rient, bienheureux ceux qui sont excités, bienheureux ceux qui ont tous les biens de ce monde, qui peuvent jouir de la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas, bienheureux ceux qui jouissent de la vie. Notre Seigneur nous dit, bienheureux ceux qui se préparent à la vie éternelle. Et donc le monde va évidemment dire malheur à ceux qui pleurent ici-bas. Parce que justement, c'est la preuve qu'ils n'ont pas voulu participer au bien de ce monde. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, que nous dit le monde? Bienheureux à ceux qui ont tout. Bienheureux à ceux qui ont l'opulence ici-bas. Je me rappelle cette formule qu'avaient les Américains quand j'étais là-bas, qui m'horripilait. Il disait tout le temps, regardez, les États-Unis sont bénis de Dieu, la preuve, nos magasins sont tous pleins. Et il fallait répondre, remerciez pas le bon Dieu, remerciez le démon. C'est précisément parce que vos magasins sont tous pleins qu'il est tellement difficile de sauver son âme à cause de l'opulence. C'est pour cela que souvent, je me dis, monsieur l'abbé, moi je prie bon Dieu pour devenir un millionnaire. Eh bien, mon pauvre, priez bon Dieu pour pas devenir un missionnaire, un millionnaire, pardon, parce que en devenant un millionnaire, je ne dis pas qu'il est impossible de sauver son âme, mais le saint patron des millionnaires, je ne crois pas que ça existe dans l'Église. Il est pratiquement impossible, avec trop d'argent, d'aller au ciel. Bien sûr, il faut un minimum, c'est sûr. Un père de famille a le devoir de trouver un travail suffisamment rémunérateur pour pouvoir nourrir sa famille, c'est absolument évident. Mais sans s'attacher au bien de ce monde. Autre miséricorde, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Regardez la miséricorde de notre Seigneur. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour les pauvres, pour les petits, pour les pécheurs, pour les malades, pour les agonisants, pour les mourants. Et qu'est-ce que dit le monde? Le monde vous dit au contraire, malheur à ceux qui sont miséricordieux. Heureux ceux qui ont tout, heureux ceux qui sont accrochés, enracinés dans ce monde. Parce que la vie se termine au trou du cimetière. Autre béatitude, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le monde dit le contraire. Malheur aux purs. Heureux ceux qui sont impurs, heureux ceux qui se vautrent dans la fange de l'impureté, dans la fange de la luxure, parce qu'ils pourront avoir tout ici-bas. Voilà pourquoi dans le monde moderne, ils ont tout fait pour détruire le mariage. Et nous, catholiques, il faut tout faire justement pour, au contraire, pousser surtout les jeunes, à comprendre, à avoir cette soif de la vertu de pureté. Ce désir d'avoir cette pureté d'intention, cette pureté de cœur, parce que les anges au ciel ont d'abord cette vertu de pureté extraordinaire. C'est ça qu'on dit pur comme des anges. Et donc le monde moderne, au contraire, ne cherche qu'une seule chose, c'est à nous vautrer dans l'impureté pour qu'on l'avale littéralement par tous les pores de notre peau. Et ça, c'est un travail d'Internet, c'est le travail des écrans, c'est le travail de toutes les bêtises du monde moderne. Détachez-vous de tout ça pour trouver la vérité. Ce Seigneur rajoute, bienheureux les pacifiques qui seront appelés enfants de Dieu. Le monde nous dit le contraire. Bienheureux ceux qui se battent. C'est pour ça qu'il y a des guerres partout dans le monde moderne. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. Le prince de la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde nous propose l'inverse. Le monde veut que nous adorions le prince de la guerre. Le prince de la guerre, c'est qui? C'est le démon. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux lorsque vous serez, lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ a prédit que nous serions persécutés, que nous serions constamment vilipendés par le monde moderne, qu'on serait maudits, qu'on serait persécutés constamment, qu'on dirait toutes sortes de mal contre nous à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand les jeunes me demandent, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Moi, je voudrais avoir une petite vie bien tranquille ici-bas. Petite vie bien tranquille ici-bas, vous pouvez la chercher, vous ne l'aurez pas. Je dis souvent aux gens, un peu en moquant d'eux, quand ils me posent cette question, moi je voudrais une petite vie bien tranquille ici-bas, alors devenez protestant. En devenant protestant, vous aurez une petite vie bien tranquille ici-bas. Mais après, vous aurez à expliquer au bonhomme ce que vous faites comme protestant. Et pourquoi vous avez apostasié. Et on voit avec ce magnifique évangile des béatitudes, que entre, encore une fois, le monde du démon, le monde de la révolution et le monde de la révélation, le monde de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très bien qu'il y a une opposition totale, diamétralement opposée. On n'adore pas le même Dieu. Vous voulez aller au ciel? Il faut adorer le vrai Dieu. Vous voulez aller au ciel, il faut la véritable Église. Est-ce qu'on peut aller au ciel en adorant un faux Dieu? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut aller au ciel en adorant, en suivant une fausse Église? Bien sûr que non. Et c'est là, on pourrait développer pendant des heures, c'est là où on voit la différence aussi qui existe entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique. L'Église catholique, justement, enseigne toutes ces choses dont je viens de vous parler. L'Église de Vatican II, Qu'est-ce qu'il prêche? Le monde d'ici-bas. S'accrocher à la terre, ramper comme le serpent sur la terre, dans la poussière, pour jouir de la vie ici-bas. On ne s'occupe pas de la vie après, après la mort. Donc il va falloir former vos enfants, mes bien chers frères, que vous aurez un jour, où les personnes dont vous aurez la charge, pour leur rappeler ces vérités essentielles. Nous sommes des êtres d'éternité. Nous sommes créés pour aller au ciel. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. C'est la première fois des exercices de Saint-Ignace. Ne jamais oublier ça. Alors passons par la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle, elle avait parfaitement compris toutes ces choses. Elle aussi, quand elle a dit oui à l'ange, qu'il en soit fait à moi selon votre parole, elle savait très bien ce que ça voulait dire. Et pour mettre les points sur les et les barres sur les T, notre Seigneur Dieu l'a lui a rappelé quelques jours après, lorsqu'elle vient présenter son enfant au temple de Jérusalem avec Saint Joseph, et qu'il y a ce vieillard Siméon qui attendait parce qu'il lui avait été révélé, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu entre ses bras le Fils de Dieu, le Messie. Donc quand la Sainte Famille arrive, le Saint-Esprit avertit ce vieillard, ce bébé là-bas qui arrive, avec sa maman, son père putatif, c'est lui. Il vient prendre le bébé, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il félicite la très sainte Vierge Marie, nous avoir donné l'enfant Jésus? Il regarde droit dans les yeux, hein, ce bébé sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Et vous, dit-il à la très sainte Vierge Marie, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Qu'est-ce qu'elle a dû penser? Elle n'a pas tout compris. Et il dit dans l'évangile, elle gardait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Quand est-ce qu'elle a compris? Elle a compris au pied de la croix, le vendredi saint. Lorsqu'elle a reçu le corps ensanglanté, mort de son divin fils, au pied de la croix, c'est la Pietà, Notre-Dame qui reçoit sur ses genoux le corps défiguré par le péché, c'est là où elle a compris son rôle de co-rédemptrice. Et bien après, il y aura la fête de la Pentecôte qui évidemment va illuminer encore plus la Très Sainte Vierge Marie des dons du Saint-Esprit, parce que la Très Sainte Vierge Marie, contrairement à ce que certains pensent, n'avait pas la science infuse. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie qui maintenant est au ciel, reine du ciel, pas rien ça. Elle est toujours mère de Dieu, toujours avec une influence considérable sur son fils parce qu'elle est sa mère. On dit que la Très Sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté divine. C'est sans doute vrai. On le voit très bien à Cana, Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ, et dit à sa mère, c'est pas mon heure. Pas question que je fasse un miracle aujourd'hui. La Sainte Vierge, je voulais le miracle, elle l'a eu. Et elle dit à ceux qui se tenaient à côté, faites tout ce qu'il vous dira. Et notre Seigneur Jésus-Christ, pour plaire à sa mère, alors que c'était pas son heure, a décidé de changer l'eau en vin. Et donc, mettons-nous, devenons des amoureux de notre Sainte Vierge Marie. Parce que si nous avons le chapelet tous les jours dans notre poche, et que nous le disons bien tous les jours, le jour de notre mort, nous pourrons dire à notre Sainte Vierge Marie, j'ai dit mon chapelet tous les jours, ô ma reine. Notre Sainte Vierge Marie pourra à ce moment-là représenter à son fils, justement, cette prière en disant, cette âme a dit son chapelet tous les jours. Et donc, la Très Sainte Vierge Marie ouvrira pour nous la porte du ciel. Donc, demandons-lui, sans nous décourager jamais, pendant ce mois de novembre que nous commençons maintenant, de justement prier votre chapelet pour les âmes du purgatoire. Il y a des âmes qui sont purgatoires peut-être depuis des siècles. Rappelez-vous Fatima. Rappelez-vous Fatima quand c'était Lucie a demandé ou Jacinta, la plus jeune des voyantes Fatima en 1917, qui pose des questions à la Très Sainte Vierge Marie sur un certain nombre de gens qui étaient morts dans le village. Elle pose une question entre autres sur une personne en disant est-ce qu'elle est au ciel? Oui, elle est déjà au ciel, répond la Très Sainte Vierge Marie. Et Jacinta pose une autre question sur une autre personne du village voisin qui était morte il y a peu de temps. Réponse à la Sainte Vierge Marie, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'elle a répondu. Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et ça, Fatima, en 1917, dans un des pays les plus pauvres d'Europe, en pleine nature. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Donc il faut nous précipiter au pied de la Très Sainte Vierge Marie, vraiment pour nous mettre la Très Sainte Vierge Marie dans notre poche, pour qu'elle nous aide justement à sauver notre âme. Voilà ce qu'il nous faut demander. Prions bien les âmes du purgatoire. N'oubliez pas que pendant tout l'octave, c'est en fait toute la semaine, du 2 au 9, n'oubliez pas, c'est important, Demain, c'est le jour des morts. Du 2 demain jusqu'au 9 novembre, l'Église catholique ouvre tout grand les portes des indulgences pour les défunts. Il vous suffit d'aller dans un cimetière et vous priez des prières pour les défunts. Il n'y a pas de prière imposée. Justement, l'Église laisse la plus grande liberté pour permettre à tout le monde d'utiliser cette indulgence. Vous êtes dans un cimetière, vous dites simplement entre Père, Ange, Jésus, le Marie, un gloire au Père, ou une dizaine de chapelets, et vous pouvez à chaque fois obtenir la libération d'une âme du purgatoire. Et vous avez le droit de demander la libération d'une âme du purgatoire que vous connaissez, un membre de votre famille. Moi, je vous demande, quand je vais au cimetière, je demande la libération du purgatoire de mon pauvre papa qui est mort il y a 3 ans. S'il est encore au purgatoire, je ne sais pas. Si mon père est déjà au ciel, ce que j'espère, le bon Dieu utilisera ses prières, cette indulgence pour quelqu'un d'autre. Priez pour les âmes du purgatoire. Et allez-y tous les jours. Moi, je m'impose de le faire ici. J'arrive à le faire à peu près tous les jours, du 2 au 9. Je suis au cimetière, il y en a un juste au-dessus là, il y en a un aussi de l'autre côté. Allez au cimetière et priez pour les âmes du purgatoire qui attendent ça. Imaginez ces âmes du purgatoire qui savent qu'ils sont sur la liste du départ pour aller au ciel, qui attendent ces dernières prières. Et puis vous n'y pensez même pas. Nous n'y pensons même pas. Donc supplions à notre Sainte Vierge Marie de nous donner cet amour pour l'Église souffrante, parce qu'on y passera un jour, et l'Église triomphante au ciel. Quand on sera au purgatoire, on sera bien content d'avoir des gens qui vont prier pour nous. Il ne faut pas se dire, quand je serai au purgatoire, ah ben, ça se passera très bien. Il y a beaucoup de gens qui devaient rester au purgatoire, peut-être pendant des siècles, et qui seront au purgatoire beaucoup moins, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour eux. Alors, mettons tout ça entre les mains de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.